Guy de Maupassant, En voyage. Le wagon était au complet depuis Cannes. On causait, tout le monde se connaissant. Lorsqu'on passa à Tarascon, quelqu'un dit « Oh, c'est ici qu'on assassine !» Et on se mit à parler du mystérieux et insaisissable meurtrier qui depuis 2 ans s'offre de temps en temps la vie d'un voyageur. Chacun faisait des suppositions, chacun donnait son avis. Les femmes regardaient en frissonnant la nuit sombre derrière les vitres, avec la peur de voir apparaître soudain une tête d'homme à la portière. Et on se mit à raconter des histoires effrayantes, de mauvaises rencontres, des têtes à tête avec des fous dans un rapide, des heures passées en face d'un personnage suspect. Chaque homme avait une anecdote à son honneur. Chacun avait intimidé, terrassé, garrotté quelques malfaiteurs en des circonstances surprenantes, avec une présence d'esprit et une audace admirable. Un médecin qui passait chaque hiver dans le midi voulut à son tour conter une aventure. « Moi, dit-il, je n'ai jamais eu la chance d'expérimenter mon courage dans une affaire de cette sorte, mais j'ai connu une femme, une de mes clientes, morte aujourd'hui, à qui arriva la plus singulière chose du monde, et aussi la plus mystérieuse et la plus attendrissante. Oui, c'était une Russe, la comtesse Marie Valdanoff, une très grande dame d'une exquise beauté. Vous savez comme les Russes sont belles, du moins comme elles nous semblent belles, avec leur nez fin, leur bouche délicate, leurs yeux rapprochés, d'une indéfinissable couleur, d'un bleu gris, et leur grâce froide, un peu dure. Elles ont quelque chose de méchant et de séduisant, d'altier, de doux, de tendre, de sévère, tout à fait charmant pour un Français. Au fond, c'est peut-être seulement la différence de race et de type qui me fait voir tant de choses en elles. Son médecin, depuis plusieurs années, la voyait menacée d'une maladie de poitrine et tâchait de la décider à venir dans le midi de la France. Mais elle refusait obstinément de quitter Pétersbourg. Enfin, l'automne dernier, la jugeant perdue, le docteur prévint le mari, qui ordonna aussitôt à sa femme de partir pour Menton. Elle prit le train, seule dans son wagon, ses gens de service occupant un autre compartiment. Elle restait contre la portière, un peu triste, regardant passer les campagnes et les villages, se sentant bien isolée, bien abandonnée dans la vie, sans enfants, presque sans parents, avec un mari dont l'amour était mort et qui la jetait ainsi au bout du monde sans venir avec elle, comme on envoie à l'hôpital un valet malade. À chaque station, son serviteur Ivan venait s'informer si rien ne manquait à sa maîtresse. C'était un vieux domestique aveuglément dévoué, prêt à accomplir tous les ordres qu'elle lui donnerait. La nuit tomba, le convoi roulait à toute vitesse. Elle ne pouvait dormir, énervée à l'excès. Soudain, la pensée lui vint de compter l'argent que son mari lui avait remis à la dernière minute en hors de France. Elle ouvrit son petit sac et vida sur ses genoux le flot luisant de métal. Mais tout à coup, un souffle d'air froid lui frappa le visage. Surprise, elle leva la tête. La portière venait de s'ouvrir. La comtesse Marie, éperdue, jeta brusquement un châle sur son argent répandu dans sa robe et attendit. Quelques secondes s'écoulèrent, puis un homme parut, nu-tête, blessé à la main, haletant en costume de soirée. Il referma la porte, s'assit, regarda sa voisine avec des yeux luisants, puis enveloppa d'un mouchoir son poignet dont le sang coulait. La jeune femme se sentait défaillir de peur. Cet homme, certes, l'avait vue compter son or. Il était venu pour la voler et la tuer. Il la fixait toujours, essoufflé, le visage convulsé, prêt à bondir sur elle, sans doute. Et il dit brusquement, « Madame, n'ayez pas peur. » Elle ne répondit rien, capable d'ouvrir la bouche, entendant son cœur battre et ses oreilles bourdonner. Il reprit, « Je ne suis pas un malfaiteur, madame. » Elle ne disait toujours rien. Mais dans un brusque mouvement qu'elle fit, ses genoux s'étant rapprochés, son or se mit à couler sur le tapis comme l'eau coule d'une gouttière. L'homme, surpris, regardait ce ruisseau de métal et il se baissa tout à coup pour le ramasser. Elle, effarée, se leva, jetant à terre toute sa fortune. Elle courut à la portière pour se précipiter sur la voie. Mais il comprit ce qu'elle allait faire, s'élança, la saisit dans ses bras, la fit asseoir de force et la maintenant par les poignets. « Écoutez-moi, madame, je ne suis pas un malfaiteur. Et la preuve, c'est que je vais ramasser cet argent et vous le rendre. Mais je suis un homme perdu, un homme mort, si vous ne m'aidez pas à passer la frontière. Voilà, je ne puis vous en dire davantage. Dans une heure, nous serons dans la dernière station russe. Dans 1h20, nous franchirons la limite de l'Empire. Si vous ne me secourez point, je suis perdu. » Cependant, madame, je n'ai ni tué, ni volé, ni rien fait de contraire à l'odeur. Cela, je vous le jure. Je ne puis vous en dire davantage. Et, se mettant à genoux, il ramassa l'or jusque sous les banquettes, cherchant les dernières pièces roulées au moins. Puis, quand le petit sac de cuir fut plein de nouveau, il le remit à sa voisine sans ajouter un mot, et il retourna s'asseoir à l'autre coin du wagon. Il ne remuait plus, ni l'un ni l'autre. Elle demeurait immobile et muette, encore défaillante de terreur, mais s'apaisant peu à peu. Quant à lui, il ne faisait pas un geste, pas un mouvement. Il restait droit, les yeux fixés devant lui, très pâle, comme s'il eût été mort. De temps en temps, il jetait vers lui un regard brusque, vite détourné. C'était un homme de 30 ans environ, fort beau, avec toute l'apparence d'un gentilhomme. Le train courait par les ténèbres, jetait par la nuit ses appels déchirants, ralentissait parfois sa marche, puis repartait à toute vitesse. Mais soudain, il calma son allure, siffla plusieurs fois et s'arrêta tout à fait. Ivan apparut à la portière afin de prendre les ordres. La comtesse Marie, la voix tremblante, considéra une dernière fois son étrange compagnon, puis elle dit à son serviteur d'une voix brusque « Ivan, tu vas retourner près du comte, je n'ai plus besoin de toi. » L'homme interdit ouvrait les yeux énormes. Il balbutia « Mais, Barine !» Elle reprit « Non, non, tu ne viendras pas, j'ai changé d'avis. » « Non, je veux que tu restes en Russie. Tiens, voici de l'argent pour retourner. Donne-moi ton bonnet et ton manteau. » Le vieux domestique, effaré, se décoiffa et tendit son manteau, obéissant toujours sans répondre, habitué aux volontés soudaines, aux irrésistibles caprices des maîtres. Et il s'éloigna, les larmes aux yeux. Le train repartit, courant à la frontière. Alors la comtesse Marie dit à son voisin, « Ces choses sont pour vous, monsieur. Vous êtes Ivan, mon cher serviteur. Je ne mets qu'une condition à ce que je fais. C'est que vous ne me parlerez jamais, que vous ne me direz pas un mot, ni pour me remercier, ni pour quoi que ce soit. » L'inconnu s'inclina sans prononcer une parole. Bientôt, on s'arrêta de nouveau et les fonctionnaires en uniforme visitèrent le train. La comtesse leur tendit les papiers et montrant l'homme assis au fond de son wagon, « C'est mon domestique Ivan, dont voici le passeport. » Le train se remit en route. Pendant toute la nuit, ils restèrent en tête à tête, muets tous deux. Le matin venu, comme on s'arrêtait dans une gare allemande, l'inconnu descendit, puis debout à la portière. « Pardonnez-moi, madame, de rompre ma promesse, mais je vous ai privé de votre domestique. Il est juste que je le remplace. N'avez-vous besoin de rien ? » Elle répondit froidement. « Allez chercher ma femme de chambre. » Il y alla, puis elle disparut. Quand elle descendait à quelque buffet, elle l'apercevait de loin qui la regardait. Ils arrivèrent à Menton. Chapitre 2. Le docteur se tut une seconde, puis reprit. Et un jour, comme je recevais mes clients dans mon cabinet, je vis entrer un grand garçon qui me dit « Docteur, je viens vous demander des nouvelles de la comtesse Marie Barjanov. Je suis, bien qu'elle ne me connaisse pas, un ami de son mari. » Je répondis « Oh, elle est perdue. Elle ne retournera pas en Russie. » Et cet homme, brusquement, se mit à sangloter. Puis il se leva et sortit en trébuchant comme un ivrogne. Je prévins le soir même la comtesse qu'un étranger était venu m'interroger sur sa santé. Elle parut émue et me raconta toute l'histoire que je viens de vous dire, et elle ajouta « Cet homme que je ne connais point me suit maintenant comme mon ombre. Je le rencontre chaque fois que je sors. Il me regarde d'une étrange façon, mais il ne m'a jamais parlé. » Elle réfléchit, puis ajouta « Tenez, je parie qu'il est sous mes fenêtres. » Elle quitta sa chaise longue, alla écarter les rideaux, et me montra en effet l'homme qui était venu me trouver, assis sur un banc de la promenade, les yeux levés vers l'hôtel. Il nous aperçut, se leva et s'éloigna sans retourner une fois la tête. Alors j'assistai à une chose surprenante et douloureuse à l'amour, muet de ces deux êtres qui ne se connaissaient point. Il l'aimait, lui, avec le dévouement d'une bête sauvée, reconnaissante et dévouée à la mort. Il venait chaque jour me dire « Comment va-t-elle ?» comprenant que je l'avais deviné. Et il pleurait affreusement quand il l'avait vue passer plus faible et plus pâle chaque jour. Et elle me disait « Je n'ai jamais parlé qu'une fois, ce singulier bonhomme. Il me semble que je le connais depuis 20 ans. » Et quand ils se rencontraient, elle lui rendait son salut avec un sourire grave et charmant. Je la sentais heureuse, elle si abandonnée et qui ne se savait perdue. Je la sentais heureuse d'être aimée ainsi, avec ce respect, cette constance, avec cette poésie exagérée, avec ce dévouement prêt à tout. Et pourtant, fidèle à son obstination d'exalter, elle refusait désespérément de le recevoir, de connaître son nom, de lui parler. Elle disait « Non, non, cela me gâterait, cette étrange amitié. Il faut que nous demeurions étrangers l'un à l'autre. » Quant à lui, il était certes également une sorte de Don Quichotte, car il ne fit rien pour se rapprocher d'elle. Il voulait tenir jusqu'au bout l'absurde promesse de ne lui jamais parler qu'il avait faite dans le wagon. Souvent, pendant ses longues heures de faiblesse, elle se levait de sa chaise longue et allait entrouvrir le rideau pour regarder s'il était là, sous sa fenêtre. Et quand elle l'avait vu, toujours immobile sur son banc, elle revenait se coucher avec un sourire aux lèvres. Elle mourut un matin, vers 10 heures. Comme je sortais de l'hôtel, il vint à moi le visage bouleversé. Il savait déjà la nouvelle. « Je voudrais la voir une seconde devant vous, » dit-il. Je lui pris le bras et rentrai dans la maison. Quand il fut devant le lit de la morte, il lui saisit la main et la baisa d'un interminable baiser. Puis il se sauva comme un insensé. Le docteur se tut de nouveau et reprit. Oui, bien voilà, certes la plus singulière aventure de chemin de fer que je connaisse. Il faut dire aussi que les hommes sont des drôles de toqués. Une femme murmura à mi-voix. Bon, ces deux êtres-là ont été moins fous, vous ne croyez? Ils étaient... Mais elle ne pouvait plus parler tant elle pleurait. Comme on changea de conversation pour la calmer, on ne sut pas ce qu'elle voulait dire. 10 mai 1883.